Peut-être que vous vous souvenez d'un film de Tim Burton qui s'appelle Big Fish et qui repose sur l'art de raconter des histoires. Les histoires que je préfère, en l'occurrence, celles qu'on vous raconte avec un plaisir contagieux, à l'oral, en tête à tête ou à plusieurs, autour d'un feu. Les histoires, vous savez, qui tiennent moins par ce qu'elles racontent que par le génie de celui ou celle qui raconte. Les histoires sans queue ni tête, qui semblent être inventées au fur et à mesure tellement elles regorgent de rebondissements. Les histoires à dormir debout auxquelles personne de normalement constitué ne peut croire tant elles sont extravagantes, exubérantes, exagérées, mais qui sont tellement bien dites qu'on fait semblant d'y adhérer. Ce qui compte, c'est l'imagination du conteur qui assume la fable, la fiction avec une formidable exaltation. Ces histoires populaires, on les appelle aussi tall tales. Pour ceux qui parlent anglais, elles sont au cœur de la culture orale du vieux sud des États-Unis. C'est l'art des grandes gueules qui savent faire une légende de chacun de leurs récits. L'art des drôles de zozo qui troquent les mots bien élevés pour du franc-parler ou même de l'argot. L'art qui a nourri Mark Twain quand il écrit Huckleberry Finn, mais aussi Faulkner ou Kerouac dans une certaine mesure. C'est l'essence de la littérature américaine, et elle repose moins sur l'histoire, encore une fois, que sur le charisme de celui ou celle qui la raconte, sur son art de nous faire rire, pleurer, rêver, voyager, sur son art tout simplement de nous faire croire.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas fini de nous raconter des histoires. Il est l'un des plus grands comédiens américains de ces 10 dernières années, Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club il y a 8 ans notamment. Vous l'avez vu dans Interstellar de Christopher Nolan, dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese ou encore dans Mud de Jeff Nichols. Dans un livre très réussi, il revient sur sa vie, une vie jalonnée de remise en question, d'intuition, de réinvention. Ça s'appelle Green Lights, Feu Vert. Ça sort aujourd'hui. Bonjour Matthew McConaughey.
Bonjour Gus.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, alors c'est à la fois aux spectateurs, aux lecteurs et aux comédiens que je m'adresse. Qu'est-ce que c'est une bonne histoire pour vous ?
Excellente première question. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Quand vous ne savez pas ce qui va arriver. Quand vous pensez savoir ce qui va arriver, mais ce n'est pas ce qui arrive. La mise en place, prendre son temps pour une bonne mise en place. Et si vous accrochez l'auditeur, qu'il s'agisse d'une histoire brève, d'une histoire racontée à table, d'un scénario à l'écran, présenter un monde et des personnages qui, espérons-le, feront dire au spectateur « Ah, c'est original, j'ai jamais vu ça avant ». Même s'ils connaissent l'histoire, avec un peu de chance, il aura l'impression de ne pas avoir déjà vu cette histoire qui va lui être racontée avec ces personnages-là. Et ensuite, l'atterrissage. Après avoir passé la partie centrale avec tous les détails, vous allez vers l'atterrissage, le troisième acte. C'est comme dans la chute d'une blague. Si vous avez bien raconté l'histoire jusque-là, vous pouvez prendre votre temps, un silence avant l'atterrissage. Paf ! La conclusion, le coup de grâce.
À vous entendre, Matthew, ça dépend aussi de celui ou celle qui la raconte, l'histoire en question. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez doué pour raconter des histoires ?
J'ai grandi autour de conteurs. À table, dans ma famille, j'étais le plus jeune. On s'asseyait tous, mon père, mes deux frères, ma mère et moi, autour de cette table ronde, ce plateau tournant. Je me souviens que mon père était un grand conteur. Mes frères aînés étaient des grands conteurs. Même ma mère était une grande conteuse. En grandissant, et jusqu'à l'adolescence, j'ai commencé par chercher un silence dans la conversation, pour pouvoir tenter d'intervenir. Et les premières fois que j'ai trouvé une ouverture, j'ai commencé à raconter, et dès que j'avais la parole, je devenais nerveux, je commençais à transpirer, et je m'étouffais. J'hésitais. Je pouvais pas raconter l'histoire correctement. Et ma famille était impitoyable. Elle me laissait pas une seconde chance. Elle ne vous encourageait pas. Elle disait, oh, cette histoire est nulle. Je perdais le fil de mes idées, il commençait une histoire et il m'écrasait. Il fallait se battre pour pouvoir raconter une histoire dans ma famille. Et avec le temps, j'ai continué à intervenir à table et finalement raconter une bonne histoire. Et puis j'ai pris de l'assurance et mes parents m'ont dit « Ah !» Et mes frères ont dit « C'est une bonne histoire !» Et puis j'ai continué pendant les dîners, les feux de camp, les voyages. J'étais toujours celui qui racontait des histoires.
Vous êtes devenu acteur, Matthew McConaughey. De quel outil est-ce qu'on dispose pour raconter une histoire quand on est acteur ?
En tant qu'acteur, mon travail consiste à connaître mon bonhomme, mon personnage. Et si je connais mon personnage de l'intérieur, alors mon corps fait ce qu'il fait, comme mon bonhomme le ferait. Mais je ne réfléchis pas au mouvement, je chorégraphie pas mon jeu. J'essaie de comprendre qui est mon personnage. Et ensuite, je bouge et je parle, et j'écoute, et je fais comme ci ou comme ça, comme le ferait mon bonhomme.
Alors c'est très intéressant parce qu'il se trouve que les premiers mots que vous ayez prononcés dans un film, ils sont nés d'une improvisation. Est-ce que vous vous souvenez ?
Ouais. C'était en 1992. J'étais à la fac du Texas. Je sors dans un bar un soir. Je rencontre ce type qui est en ville pour tourner un film. Lui et moi, on boit assez pour être foutus à la porte du bar après environ 4 heures. À la fin de la soirée, il me dit « T'as déjà joué la comédie, Mathieu ?» J'ai répondu « Ouais, j'ai fait un peu de mannequinat, mais pas vraiment du théâtre. Oh, tu pourrais convenir pour une séquence que je tourne pour ce film. Viens chercher un scénario. » J'y vais, je prends le script, il y a 3 lignes dedans. C'est un personnage qui s'appelle Wooderson dans un film appelé Génération Rebelle. On m'appelle sur le plateau pour faire un essai de coiffure, maquillage et costume. Puis je vais sur le trottoir, Richard Linklater, le réalisateur, s'approche, me regarde de bas en haut. Il voit, et il aime ce qu'il voit, et je suis sur le point de lui dire au revoir, il me dit « Hey, Wooderson, ce personnage que tu joues, si tu penses qu'il serait intéressé par une rouquine, une intellectuelle ?» Je lui dis « Ouais, donnez-moi quelques minutes. » Il me dit « Bon, tu vois, Marissa Ribisi, l'actrice qui joue l'intellectuelle rousse, elle est ici, dans sa voiture, avec ses copains ringards sur la banquette arrière. Peut-être que Wooderson pourrait s'arrêter et essayer de la draguer ?» Je réponds « Bien sûr !» Ensuite, on me pose un micro-cravate, et je me retrouve tout à trac sur le point de tourner la première scène de ma vie dans mon premier film. Et il n'y a rien d'écrit. Je suis un peu stress. Je commence à me dire dans ma tête, qu'est-ce qu'il va faire Wooderson ? C'est qui mon bonhomme ? Et je me dis, je vais aller à ma voiture. Je me dis, ben ça va, je suis dans ma Chevelle 1970, et d'un. Je me dis, je suis rock'n'roll. Et je me dis, ben j'ai Ted Nugent Stranglehold sur la 8e piste. Et de deux, je me dis, je vais me défoncer. Je me dis, eh ben Slater est assis à la place du mort, il a toujours un ouinge bien tassé. Et trois, et j'entends action. Et quand j'entends action, je mets la voiture en marche, je regarde Marissa Ribisi, l'intello rousse d'en face, que je vais draguer, et je me dis, la quatrième chose qu'il me faut, c'est de lever une poulette. Et en démarrant, je check les trois premières choses que j'ai déjà en route, et pour la quatrième, je dis...
C'est un film qui est devenu culte, Génération Rebelle, Dazed and Confused. Mais à quel moment est-ce que vous avez ressenti qu'être acteur, c'était aussi un métier qui demandait de la technique, Matthew?
J'ai été présenté à une femme du nom de Penny Allen, qui a été, disons, mon mentor pendant 19 ans. Et j'ai commencé à travailler avec elle en 98. Jusqu'alors, tout était instinctif pour moi. J'avais essayé auparavant quelques cours, des cours de théâtre, et ils n'ont rien fait d'autre que de me faire régresser. J'avais l'impression d'avoir perdu mon instinct. Mais quand j'ai rencontré Penny Allen, elle m'a mis comme il faut au pied du mur. Elle m'a appris ce qu'était le métier d'acteur. Quels étaient mes droits. Elle m'a appris à étudier un scénario, à entrer dans un personnage. Elle m'a appris à sortir des problèmes si j'étais tendu sur le plateau. Elle m'a appris à être un véritable artisan et un artiste. Et quand vous étudiez quelque chose que vous faites d'instinct, il y a un déclenchement. Parce que, intellectuellement, je ne savais pas ce que je faisais, mais c'était instinctif. Donc, quand on étudie un art, si on approfondit l'apprentissage, tout d'un coup, l'instinct et l'esprit, eh ben, ils se rencontrent. Et on est meilleur qu'avant.
Le monde du cinéma, pour vos parents, pour le milieu d'où vous veniez, pour vous aussi d'ailleurs, ça représentait quoi, au départ ?
C'était comme sur Pluton. C'était sur une autre planète. On ne regardait pas de films. On n'avait pas le droit de regarder la télé. On ne fantasmait pas sur les stars de cinéma. On n'allait pas au cinéma. J'ai vu deux films jusqu'à mes 17 ans.
Mais alors, en entrant dans la fac de cinéma à la fin des années 80, Matthew McConaughey, quel univers est-ce que vous avez découvert ?
Ce monde de la narration. Ce monde, les nouvelles que j'écrivais dans mes journaux intimes. Cette période où j'écrivais des choses, où je cherchais à savoir qui j'étais dans la vie, par exemple. Pourquoi je ris? Je ris vraiment fort, à gorge déployée au cinéma, la seule blague où personne ne rit. Et celle où tout le monde rit, je la trouve pas drôle. Pourquoi je pleure à la naissance, mais pas à la mort? Des choses que j'apprenais sur moi-même. Et puis, en jouant et en racontant des histoires, je me suis dit, oh, t'as pas besoin de changer ta façon de sentir les choses. Concentre-toi sur ce que tu ressens, Matthew. Et c'est comme ça que tu seras singulier. Tiens, toi, à ce que tu ressens.
Mais vous décrivez aussi, et c'est très intéressant, un microcosme assez snob, en fait, dans cette fac de cinéma. Vous racontez notamment le mépris de vos camarades pour le cinéma populaire, pour les blockbusters et les films tels que Piège de cristal avec Bruce Willis. Ce mépris, dans quelle mesure est-ce que vous en avez été la cible à un moment de votre carrière ?
Voyons comment j'ai commencé. Quand je suis monté sur la scène mondiale, je suis devenu célèbre, c'était après Le droit de tuer. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu, en quelque sorte, mon entrée dans le monde. J'étais en couverture de 5 magazines. Donc, mon entrée était, beaucoup de publicistes me l'ont dit depuis, c'était une entrée aussi fracassante que possible pour un acteur à Hollywood pour dire « le voici ». Et le film a bien marché, et du jour au lendemain, j'étais célèbre, j'étais une star de cinéma. Où on va après ça? Je ne pouvais pas aller plus haut, mon staromètre ne pouvait plus grimper, et j'étais l'idole de la ville. Je t'adore, Mia Moore, Matthew, gna gna gna, tout le monde, bisous, bisous, et champagne et caviar du matin au soir. Et tout le monde me disait, oui, Matthew, dis-nous simplement oui. Et moi, je regardais autour de moi en me disant, ouais, d'accord, qu'est-ce qui a un sens de tout ça? Et qu'est-ce qui est pipeau? Hein? Donc j'ai dû passer tout ça au crible. Je l'écris dans mon livre, une des grandes leçons que j'ai reçues à Hollywood, c'est quand j'ai appris qu'il n'y a rien de personnel, c'est tout du business.
Mais c'est intéressant parce que ce statut d'acteur, de grand acteur de comédie romantique qui vous a convenu pendant des années, et puis un jour vous avez eu le sentiment d'être devenu un amuseur plutôt qu'un acteur. Quelle est la différence?
J'étais le type pour la comédie romantique à Hollywood. J'étais le type et j'aimais ça. Ça marchait, ça payait bien, je m'amusais. Mais je me suis rendu compte que dans ma vie, ma vraie vie à l'époque, je venais d'avoir un fils, j'avais trouvé la femme que j'aime. Ma vie était primordiale, mon gars. Ma vie était pleine d'un grand amour, de grande colère, grande douleur, grande joie. Mais les rôles que je jouais dans ces comédies romantiques n'avaient pas ça. Ils étaient en quelque sorte pleins d'entrain, légers. C'était bien, mais je voulais que mon travail me fasse peur. Ma vie me faisait peur. Mon travail ne me faisait pas peur. Alors je me souviens de m'être dit, tu sais, il n'y a rien de mal à être un amuseur, mais j'aimerais que les rôles dans lesquels je joue me mettent au défi, comme ma vie me met au défi, qu'ils me fassent peur, qu'ils me fassent transpirer dans mes bottes, comme ma vie me fait transpirer.
Ça, c'est une définition de l'acteur. Celle qui n'est fidèle à personne dans cette émission, vous la connaissez, Matthew, c'est la culture et son actualité libertine à souhait. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 6 octobre ?
Le plus grand prix littéraire français, le prix Goncourt.
En voilà une idée, qu'elle est bonne, en même temps qu'elle dévoilait hier la liste resserrée des 9 livres encore en lice pour son prestigieux prix. L'honorable Académie Goncourt a très officiellement annoncé le vote d'une nouvelle règle pour encadrer son mode de sélection. Désormais, le règlement stipule que ne pourront être retenus les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury. Alors c'est très bien, mais est-ce que ça s'applique aussi aux copains, aux cousins, aux amants secrets?
Le rôle du vêtement n'est plus celui qu'il était avant. Avant, c'était d'habiller. Maintenant, c'est plutôt comme une espèce de spectacle.
La mode fait son cinéma. La Cinémathèque à Paris propose dès aujourd'hui Cinémode, une grande exposition pensée par le créateur Jean-Paul Gaultier. Entre femme fatale, macho man ou fric flamboyant, comme dans un grand défilé, l'événement propose une odyssée du style à travers les époques, les genres et les arts, réunissant une centaine de pièces, du vestiaire masculin de Marlène Dietrich aux lignes futuristes du cinquième élément. Gaultier mêle les œuvres qui en nourrit son imaginaire et ses créations personnelles immortalisées par le septième art. C'est absolument fabuleux. Et préparez vos mouchoirs. Après plusieurs jours de teasing mystérieux, la chanteuse Adèle a annoncé hier son grand retour par surprise. Et après presque 6 ans de silence, elle a dévoilé une vidéo et quelques notes de son prochain morceau titré Easy on Me et attendu pour le 15 octobre prochain, tout en noir et blanc élégant et échappée poignante. L'extrait déjà vu près de 13 millions de fois semble annoncer la tonalité du 4e album de la diva britannique dont on ne connaît pas encore la date de sortie mais qui devrait s'appeler 30. Oh oui.
Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausruhen musst.
Ich will mich nicht ausruhen. Ich soll nicht proben können.
Et enfin, mercredi, de premier frima, tout ce cinéma, car aujourd'hui, dans les salles, c'est évidemment le comeback très attendu de James Bond, mais outre les aventures et les au revoir de l'agent 007 qui prend sa retraite, nous, on choisit Petite Sœur, le drame poignant de Stéphanie Chua et Véronique Raymond. Entre création et crépuscule, les deux cinéastes suisses offrent la chronique tendre et bouleversante de la lutte d'un frère et d'une sœur contre la maladie, soutenue par Shakespeare, la fantaisie et la passion. C'est tout bon. Le comédien américain Matthew McConaughey, invité de Boomerang ce matin pour parler de cinéma, d'incarnation, mais aussi de famille, puisque vous ne cessez de l'évoquer dans votre livre. Vous écrivez que vous venez d'une longue lignée de rebelles. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ah, c'est des hors-la-loi, mon gars. Ils sont tout à fait convaincus que le monde tourne autour d'eux. Leur façon de faire, c'est la façon dont ça devrait être fait. Et si ça marche pas avec tout le monde, alors nous nous contentons de faire ce que nous pouvons dans notre coin.
Alors vous dites nous, qu'est-ce qu'il y a de plus rebelle en vous, Matthew ?
Je le dis aux réalisateurs quand je vais travailler avec eux. Écoutez, je suis facile à vivre. Je suis facile. Si vous voulez que je fasse ce que vous voulez que je fasse, ne me dites pas quoi faire. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Si quelqu'un me dit quoi faire, mon premier réflexe est de reculer et de dire, je vais faire le contraire.
Vous êtes pénible.
Ouais. Je ne suis pas un grand adepte du suivisme. J'aime trouver par moi-même. J'ai aussi vu ça chez d'autres personnes. Je ne pense pas quiconque aime qu'on lui dise quoi faire. Peut-être juste une suggestion, un coup de pouce. Parce que nous voulons tous trouver par nous-mêmes et dire « Ah, c'est à moi, c'est mon choix, je l'ai fait spécialement. »
Alors, votre famille, elle s'est implantée au Texas, état auquel on sent que vous êtes toujours très attaché. Vous nous parlez depuis le Texas aujourd'hui, depuis Austin. En quoi est-ce que vous vous sentez profondément texan ?
Je pense que je me sens très texan. Mais vous savez, le Texas, c'est un état... nous avons un très fort sens de l'individualisme au Texas. Mais le Texas est aussi un peu un état de la Renaissance. Ça veut dire que, aussi terre-à-terre que nous soyons, aussi attachés que nous soyons à notre identité, nous aimons exporter nos enfants, nous aimons les envoyer au loin. Allez, remplissez vos passeports, cassez-vous d'ici, parcourez le monde, trouvez des histoires, revenez, racontez-les-nous. Donc on n'essaie pas de s'encrouter. J'ai été élevé à la manière texane du... Ouais, ok, il y a certaines valeurs que tu as en tant que Texan, certaines attentes que tu as en tant que Texan. Maintenant, pars dans le monde, va les partager et reviens nous en faire le récit.
Mais quand, par exemple, vous voyez que le Texas vient de promulguer une loi restreignant le droit à l'avortement, vous vous dites quoi ?
Ça m'a surpris. Je pense que c'est trop, ça va trop loin. Je vois ce qu'ils essayent de faire. Je pense pas que ça va tenir. Je pense qu'il va être rejeté, c'est mon intuition. Et la loi qu'ils ont proposée, qu'ils essayent de faire passer au Texas, elle est très sournoise. Parce que ce qu'elle permet, c'est d'identifier les personnes qui pratiquent les avortements et de dresser une sorte de liste. N'importe qui peut appeler et être récompensé pour ça. C'est un peu comme si en parlant de hors-la-loi, le public pouvait enquêter et dénoncer et en tirer de l'argent. Cette loi va un peu loin pour moi.
Alors c'est vrai, ce que vous disiez, cet attachement au Texas, il est toujours allé de pair chez vous avec un désir d'évasion, l'envie de découvrir autre chose. D'abord en Australie, puis en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et en Afrique, et plus précisément au Mali. Ce voyage au Mali, qui est initiatique pour vous, il est né d'un rêve, paraît-il, d'un rêve érotique. Quel rêve ? Peut-être nous raconter.
C'est un rêve superbe. Bon, j'ai fait ce rêve en 1992, puis je l'ai refait en 1996. C'était un rêve où je flottais sur le dos, nu, sur le fleuve Amazon, enveloppé de pythons, d'anacondas, de requins, de crocodiles et de piranhas. Et le long de la rive gauche du fleuve, jusqu'à l'horizon, il y avait tout un rang de tribus africaines, de lances et de boucliers. Et c'était un rêve érotique. C'était pas un cauchemar. C'était un rêve érotique. Il durait 11 secondes. Chaque cadre était une seconde, chaque image. Donc il y a 11 images dans le rêve, 11 coups, paf, et ensuite j'éjacule. Dans mon rêve, je me réveille et je vais me changer. Mais ça n'a pas de sens. Donc quand j'ai fait ce rêve une deuxième fois, 5 ans après la première fois, je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, je me suis dit, voilà encore ce rêve. Puisque je l'ai fait deux fois, quelqu'un, quelque chose essaie de me dire quelque chose. Alors, j'ai poursuivi ce rêve. Et qu'est-ce que je savais du rêve ? Deux choses. Que j'étais sur l'Amazone et qu'il y avait des Africains. Alors, je suis allé voir des tribus africaines. Je suis allé chercher Ali Farka Touré. J'avais vu plusieurs fois au Festival du Désert, dans le Sahara. Et je l'ai trouvé. Et c'est là que j'ai terminé le rêve.
Mais ces voyages, ce désir d'aller à la rencontre de l'autre, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, au fond, Matthew ? À pas chercher à imposer votre point de vue, votre vision du monde, à aller à la rencontre de l'autre, à essayer de le comprendre, plutôt ?
Ouais, bon, vous savez, vous y allez comme tout le monde, et j'ai essayé d'imposer ma volonté, ma vision des choses. Mais ce que j'ai découvert, surtout dans les deux premières semaines, il faut s'asseoir, écouter, se mettre au diapason de l'endroit, rendre justice à l'endroit et aux gens, et commencer par écouter. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je découvre qu'il ne s'agit pas d'imposer ma propre volonté, mais de dire « Ah, on est en fait assez semblables ».
Et dans quelle mesure diriez-vous que c'est aussi pour ça que le cinéma existe, pour nous permettre de mieux nous comprendre les uns les autres ?
Je ne sais pas si c'est la mission du cinéma. Je pense que c'est bien ou quelque chose de ce genre lorsque le cinéma et le grand art peuvent faire que nous nous retrouvions chez l'autre. Une grande interprétation, une grande histoire racontée au cinéma, on la regarde. Et quand c'est bien fait, nous ne sommes pas cette personne, mais nous nous retrouvons dans cette personne et dans son vécu. Elle porte un nom différent du mien, mais c'est moi que je vois. Lorsque quelqu'un aime mon livre, le meilleur compliment que je reçois, c'est quand on me dit « Ah, je vois ma vie dans la vôtre, je me vois en vous ». Ça, c'est une grande expression de l'art.
Quelle est la plus belle chose que vous ayez comprise, en fin de compte, grâce au cinéma ?
N'imite personne. Sois toi. Parce qu'on n'est pas la meilleure des choses au cinéma. C'est... Quelqu'un demande « Qui est le meilleur acteur du monde ?» Je réponds « Bah, si tu regardes un documentaire sur une personne qui se comporte sincèrement devant une caméra dans une situation donnée, on ne peut pas jouer, il n'y a pas de meilleur acteur que ça. » Vraiment, quelqu'un qui se comporte naturellement, qui ne joue pas. Le meilleur jeu, c'est quand il n'y a pas de jeu. C'est quand on est le personnage. Il n'y a pas de séparation entre « Ah, maintenant, je vais agir comme ci, comme ça ». Il n'y a pas d'objectivation du personnage. C'est une expérience subjective. Et la caméra le capte. Et le réalisateur met en place des angles pour aider à raconter cette histoire. Là, c'est là que l'histoire est aussi bonne que possible.
On va continuer à se parler et à se comprendre juste après un titre et une voix qui me font pleurer à tous les coups, moi. Ce sont celles du très texan Kris Kristofferson en 1970 qui chantait For the Good Times. C'est l'une des plus belles chansons qui soit. Vous êtes sur France Inter avec Matthew McConaughey. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world. Keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here. If you should find you ever need me, don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the rain.
soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good times,
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Ah bon, on est quelque part entre le cow-boy, MacGyver et Paul Newman. C'est facile, il a l'œil bleu technicolore, le sourire carnassier, décontracté, droit dans ses bottes. C'est le guide de haute montagne grâce auquel le danger semble toujours sous contrôle. Vous savez, qui sait allumer un feu, décapsuler une canette avec ses dents ou même avec ses paupières. Matthew McConaughey, invité de Boomerang ce matin pour parler d'histoire, mais aussi d'écriture. Vous qui écrivez depuis votre adolescence, Matthew, et qui, en ouverture de Green Lights, dites que vous n'avez jamais écrit pour pouvoir vous souvenir, mais pour oublier.
Ben, ce que je veux dire, c'est que on a tous assisté à un dîner, on a tous parlé à quelqu'un, comme on le fait en ce moment. Et je dis quelque chose, vous dites quelque chose, et je me dis, oh là là, ça c'est bon ça, il me le faut, je veux le développer, je vais l'écrire tout de suite. Comme ça, je peux l'oublier et revenir à 100% dans la conversation avec vous, ou à la table de dîner, si je ne le note pas. Eh ben, pendant le reste de la conversation, 15% de mon cerveau se dit, oublie pas cette chose, oublie pas ce qu'il dit, oublie pas. Donc, je suis pas complètement présent. Alors, je l'écris pour pouvoir l'oublier et être à nouveau présent.
Mais qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez, quand vous voyez sur la feuille de papier les mots, vos propres mots, se matérialiser sous vos yeux?
Oh, when it's good and ben, quand c'est bon et vrai, et que ça a la bonne tonalité que je recherche, d'abord j'ai des frissons, et ensuite je peux plus m'arrêter. Puis je lève soudain les yeux, et ah, c'est 17 heures plus tard, je dis, oh, mon Dieu, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je vais pas aller faire pipi, j'ai besoin de dormir. J'ai la fièvre. C'est comme ça que j'appelle ça. J'ai la fièvre. Et j'adore ça. Et c'est mieux que n'importe quelle drogue. Et j'adore ça.
En tout cas, l'amour des mots, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a été transmis par votre mère, qui entretenait un rapport très singulier à la littérature. Vous dites que très tôt, elle vous a appris que si vous compreniez un texte, alors vous pouviez vous l'approprier, voire le signer, ce qu'on appelle d'ailleurs le plagiat. Matthew.
Ah ouais, c'est une leçon. Ça veut pas dire qu'on a tous signé et dire qu'on l'a écrit, comme ma maman le disait. Ma maman. Tiens, ça c'était le bouquet. Elle disait, tiens, ce poème que John Ashbery a écrit, tu aimes ce poème? Ah oui, je l'aime, il est beau. Ah super, signe-le, prends-le. Mais attends, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais tu le comprends, n'est-ce pas? Il signifie quelque chose pour toi. Oui, c'est vrai. Alors c'est à toi. Bah, ça fait partie de cette sublimation dont nous parlons avec la grande interprétation, le grand jeu d'acteur. Ça ne signifie pas qu'on doit dire, nous en volons la propriété en prenant la paternité. Mais on en prend la paternité. Si quelqu'un d'autre fait ou dit quelque chose et que ça nous affecte dans notre vie, nous le personnalisons, nous le prenons, nous le sublimons, nous le prenons. Je crois que nous devrions toujours citer l'auteur original. Mais nous le faisons nôtre. Et cet auteur veut qu'on le prenne et qu'on se l'approprie. C'est comme dans n'importe quel personnage que j'interprète quand j'ai un rôle dans un film. Je veux toujours savoir au réalisateur dès le début, hey, ce personnage, il est à moi. Une fois que nous commençons à jouer, ce personnage m'appartient. Et tout bon réalisateur me dit, je veux que tu t'en empares. Prends-le, vole-le, fais le tien.
C'est votre première leçon d'art dramatique, en fait.
Oui, je le savais même pas.
J'aimerais qu'on parle un peu de votre père qui apparaît partout dans le livre et dont la disparition coïncide avec votre tout début de carrière. Quel père avez-vous eu?
Il croyait au travail acharné. C'est un homme qui travaillait dur. C'était un hôte. Il aimait recevoir. Il avait des mains. Venez, tout le monde, venez ici. Hé, hey, tout le monde, venez. Il aimait accueillir les gens. Il était très câlin. Il était aimant. Il avait une réelle compassion pour les opprimés, les petits de la vie qui ne pouvaient pas se défendre. Ouais. Et lui, il était grand, grand, grand au physique. C'était pas un homme auquel on cherchait des noises. Il aimait les opprimés. Il nous a appris à toujours aimer et défendre les opprimés. Il était beaucoup plus. Il est mort quand j'avais 21 ans. Donc j'ai appris à le connaître en tant qu'adulte dans les deux dernières années de sa vie. Et dans ma vénération pour lui, en grandissant, bah, il était King Kong, il était tout puissant. Et je ne comprenais pas de quoi il s'agissait lorsque, après sa mort, on a trouvé toutes ces œuvres d'art, ces dessins au crayon, ces structures en argile et autres choses qu'il avait moulées, qu'il avait réalisées. Et je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, mais qui c'est qui a fait ça? Elle a dit, c'est ton père. Je lui ai dit, quand? Elle a dit, ben, chaque soir, quand tu allais te coucher, il allait dans le garage, il peignait, dessinait, sculptait. Je ne le savais pas du tout.
Vous savez, quand vous parlez de lui, ça m'évoque une question. Qu'est-ce qui fait un homme pour vous, Matthew McConaughey?
Bonne question. Bonne question. Je pense qu'on devrait tous se la poser. Vous savez, un homme doit savoir ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne défendra pas, et ce en quoi il croit. Un homme ne va pas être le plus populaire du monde, il ne va pas regarder d'où vient le vent pour dire « Ah, c'est l'air du temps, je vais aller par là ». Non. Nous avons une sorte de sens inné pour protéger, pour prendre soin, pour, avec un peu de chance, si nous pouvons fonder une famille, avoir notre nid, protéger notre famille, comme le font les aigles, et déployer les possibilités devant les nôtres, pouvoir dire « Maintenant, va, va-t'en, pars de ton côté ». C'est le plus grand exploit pour un homme.
En tout cas, la première fois que votre père vous a mis à l'épreuve, vous avez échoué. Vous le racontez dans ce livre. Et ce que vous semblez nous dire, en fait, c'est précisément l'importance des échecs et leur beauté aussi. Avec le recul, et ce sera ma dernière question, quel a été votre plus bel échec ?
Oh, wow, great question. Mmh,
super question, j'aime bien ça. Bel échec. Vous savez, je n'ai pas un souvenir qui me remonte tout de suite, en partie parce que mes échecs se sont tous avérés être parmi les choses les plus belles. Je dirais que chaque film que j'ai fait, quand je le faisais, je me disais que ça pourrait être le dernier que je vais faire. Et ça me libérait.
Merci, Matthew McConaughey, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci à votre interprète ce matin, le Texas Ranger Michel Zlotowski. Je rappelle que Green Lights, Matthew, est traduit par Héloïse Esquier en français. Il paraît aujourd'hui au Seuil. C'est un livre assez magnétique. Tout de suite, les médias, Sonia De Villa et son Instant M, juste après ça.
Mais tu n'es pas.